Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
C'est bien évidemment le moment, après ces semaines de recul, de s'intéresser à la place de Paris face au choc Covid, mais bien évidemment sur les réponses données, les réponses à apporter, les solutions à apporter désormais. Pour en parler avec nous, eh bien Arnaud de Bresson, directeur général de Paris Europlace, merci d'être avec nous en direct dans le rage. La réponse des pouvoirs publics, hein, les mesures d'urgence, de soutien sans précédent, elles ont été les bonnes et assez bien ciblées, dirons-nous, suffisantes d'après vous?
D'abord, merci de votre invitation. Oui, la réponse est oui. Tout ce qui a été opéré à la fois par les pouvoirs publics et notamment par le ministre Bruno Le Maire et par la place financière depuis les dernières semaines pour accompagner les entreprises dans cette crise extrêmement grave est, je crois, assez exemplaire. Je tiens à souligner l'importance des actions qui ont été engagées, d'abord par les banques, avec ces fameux prêts garantis pour plus de 100 milliards d'euros accordés par les banques en prêts aux entreprises, mais également par les assurances en termes de dons, cette fois, aux entreprises, non remboursement d'indemnités et dons directs aux entreprises pour plus de 2 milliards d'euros, un effort collectif de la place auquel le Paris Europlace a d'ailleurs contribué en aidant à coordonner l'action de l'ensemble des métiers et des fédérations professionnelles pour gérer cette crise et accompagner au mieux les entreprises dans cette période extrêmement difficile.
Justement, vous le disiez à l'instant, Paris Europlace a mis en place un comité de coordination Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques enseignements précis de cette coordination et de ce comité après coup ?
Je crois que c'est une originalité en Europe. Paris Europlace, à travers son rôle un peu central de rassembler l'ensemble des acteurs, s'est mis au travail dès le début de la crise pour rassembler tous les métiers, depuis les entreprises, en passant par le MEDEF notamment, jusqu'aux assurances, en passant par les investisseurs, l'association des gestions, les banques. Nous avons travaillé ensemble pour faire le point de manière très régulière sur les dispositifs qui étaient mis en place, échanger l'information, faire le point des difficultés éventuelles et également assurer le contact avec les pouvoirs publics. Cet effort de coordination a été, je crois, l'un des éléments qui a permis à la place financière d'opérer son rôle. Vous voyez, par rapport à la crise précédente de 2007-2008, où là, j'allais dire, le secteur financier était en cause, cette fois-ci, la place financière fait partie de la solution à la crise. Elle est là pour accompagner, pour permettre d'accompagner, nous l'espérons, une relance progressive en mettant des moyens à disposition des entreprises. C'est un élément fondamental, y compris en lançant des fonds d'investissement aujourd'hui dédié à des secteurs d'activité, le tourisme, la santé, pour être aux côtés des entreprises et apporter les financements indispensables pour relancer l'économie.
Des financements indispensables, donc on est au-delà, certes, le quoi qu'il en coûte. On s'est posé la question si la perfusion n'avait que trop duré, mais finalement c'est indispensable à la fois pour absorber le choc, mais désormais pour la reprise.
Il y a 2-3 priorités. Alors, par ailleurs, au-delà de la coordination, Europlace a travaillé sur plusieurs sujets de fonds. Le premier sujet d'actualité, c'est aujourd'hui la relance des fonds propres des entreprises. Compte tenu de la montée de la dette, y compris à travers d'ailleurs ces prêts garantis apportés par les banques, nous allons faire face à une montée de la dette importante des entreprises. Il est très important que en préparation de l'après-crise, un plan de relance des fonds propres des entreprises soit lancé. C'est le premier sujet sur lequel Europlace a fait des propositions au pouvoir public avec notre collège entreprise qui est présidé par Xavier Gire, directeur général adjoint de EDF, et qui fait des recommandations pour orienter l'épargne vers le financement en fonds propres des entreprises et accélérer la mise en place de fonds d'investissement spécialisés sur ce sujet, au-delà de ce que les assureurs ont déjà opéré avec les fonds Nova, Novi, Novo, 2,3 milliards qui ont été apportés dans ce domaine.
Il faut aller encore plus loin, d'une part pour ces fonds d'investissement et ce fameux fléchage de l'épargne, de ces sommes conséquentes qui dorment vers les entreprises. C'est un sujet récurrent, mais là on a vu que c'était indispensable. Quelles sont les solutions pour que ce fléchage soit enfin effectif ?
Orienter l'épargne vers le financement des fonds propres, c'est déjà d'ailleurs le sens de la loi Pacte qui a été portée par Bruno Le Maire et qui est un projet extrêmement important qui relance l'épargne salariale, qui relance l'actionnariat salarié, aller plus loin dans ce domaine et créer avec les investisseurs institutionnels, avec les banques, avec les assureurs, des fonds dédiés pour apporter des capitaux propres aux entreprises. Une troisième piste d'action, c'est aussi la relance de la bourse, sur laquelle nous travaillons actuellement avec Euronext, notamment, et Croissance Plus, qui est l'association des entreprises de taille petite et moyenne en forte croissance, et sur laquelle nous allons préparer des recommandations pour la rentrée, pour permettre de relancer la bourse Euronext, car aujourd'hui, la bourse est un élément essentiel pour pouvoir justement contribuer à reconstituer les fonds propres des entreprises et à apporter des fonds propres dans les entreprises pour l'après-crise.
Et bien
ça,
sûr.
C'est la première action. Je voudrais souligner également notre deuxième grand axe de la place de Paris, qui en fait d'ailleurs l'un des atouts majeurs et l'attractivité, j'allais dire, y compris dans le contexte du Brexit, qui est cet accent très fort que nous mettons sur la finance durable.
Oui, tout à fait.
Nous pensons que cette crise actuelle va changer les modèles économiques. La place de Paris a l'avantage d'avoir entrepris dès le début des années 2000 avec Europlace une action extrêmement forte pour développer l'investissement responsable, développer la finance environnementale et développer aujourd'hui la finance solidaire. Nous considérons que c'est un axe stratégique prioritaire pour la place de Paris. Nous avons créé une entité dédiée à ce sujet qui s'appelle Finance for Tomorrow, présidée aujourd'hui par Thierry Deo, président de Meridiam, et nous développons et nous accélérons les actions de la place de Paris dans ces domaines, avec notamment Finance for Tomorrow et l'action générale menée par Europlace et notre action en matière de recherche dans ce domaine.
La finance durable, la question environnementale donc doit véritablement être intégrée à cette réflexion sur le monde d'après, mais tout comme les évolutions technologiques, là aussi il y a besoin d'un coup d'accélérateur.
Vous avez parfaitement raison, et c'est l'autre, c'est le troisième axe dont je parlais. Vous savez, il se trouve que je préside aujourd'hui l'Alliance des places financières mondiales, et je vois le décalage important qui existe entre les places asiatiques et les places européennes. Les places asiatiques ont décidé que la crise est passée, que maintenant la priorité est de mettre l'accent et d'accélérer leur positionnement dans l'économie digitale, dans les technologies de demain, les fintechs. Il faut que nous-mêmes, l'Europe et la France, à place de Paris, nous avons créé un pôle de compétitivité finance-innovation qui accompagne aujourd'hui le développement des fintechs. Nous devons accélérer notre positionnement également dans ces domaines, sinon nous serons relégués au second plan dans les années à venir.
Mais donc, il n'est pas trop tard sur ce point, justement, face à l'avance qu'a pris notamment la place asiatique ?
Non, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais l'objectif doit être évidemment d'opérer au niveau européen, qui est le seul niveau où nous pouvons constituer des entités d'une taille suffisante pour justement concourir avec les acteurs asiatiques. La compétition, elle est avec les États-Unis et l'Asie, et l'Europe aujourd'hui doit accélérer dans ce domaine. Je pense que ça a été la raison de la nomination de Thierry Breton comme commissaire européen chargé de ces sujets. L'Europe doit accélérer dans ce domaine. Est-ce que vous me permettez peut-être de dire un mot d'ailleurs sur ce sujet de l'Europe ?
Oui, je vous en prie.
Car aujourd'hui, il n'y a pas peut-être beaucoup de bonnes nouvelles. Il y en a une. C'est que Europe is back. Ce qui vient de se passer dans la manière dont l'Europe a géré cette crise, avec l'action très soutenue de la Banque Centrale Européenne pour émettre sur les marchés et apporter des ressources au secteur financier d'un côté, et de l'autre, avec le plan franco-allemand porté par le président Macron, et au niveau européen, le plan d'action qui a été mis en place par la commissaire von der Leyen, 750 milliards d'euros à la fois sous forme de prêts et de dons, le fait que l'Europe ait réussi pendant cette crise à se réunir et à mettre en place ces outils d'une force très importante est un élément essentiel dans la manière dont les investisseurs internationaux vont à nouveau considérer l'Europe comme une zone d'attractivité. Et je pense notamment aux investisseurs américains qui guettaient l'éclatement de l'Europe, s'interrogeant non pas sur le fait de savoir s'il aurait lieu, mais quand il aurait lieu. Aujourd'hui, les investisseurs américains ont été, j'allais dire, surpris ou réconfortés et vont revenir vers l'Europe. Et je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, il faut savoir que l'investissement international, américain notamment, est encore inférieur de 30% vers l'Europe à ce qu'il était avant la crise. Il y a donc là un potentiel important pour faire revenir les investisseurs vers l'Europe et nous aider à accompagner cette sortie de crise avec le rôle qu'ils peuvent jouer. Et c'est tout le sens des messages que nous allons porter en tant qu'Europlace à la rentrée au mois d'octobre avec nos grandes rencontres financières internationales qui auront lieu le 7 octobre, évidemment sous forme hybride, c'est-à-dire en partie par Internet et par vidéo, puisque malheureusement les déplacements continuent à être compliqués, mais c'est le message que nous allons porter vers les investisseurs internationaux. Europe is back, revenez vers l'Europe. L'Europe est attractive aujourd'hui et la place de Paris est l'élément central d'attractivité en Europe.
L'attractivité de la place parisienne passera par une attractivité plus large de la place européenne avec cette solidité du bloc Europe. Ce sera ma dernière question, les atouts sur lesquels Paris doit continuer à capitaliser, hein, il y avait déjà un chemin engagé. Quelles sont les réformes qui doivent encore être menées? Parce que là aussi, ce sera encore important de poursuivre ce chemin qui avait été engagé, qui faisait que Paris attirait davantage. Certes, il y a la solidité du bloc Europe, mais pour Paris seul, quelles sont encore les voies à prendre?
Vous savez que juste avant la crise, Paris avait pris le lead.
Tout à fait.
En Europe, en matière de relocalisation, d'implantation de banques internationales, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, dans les fonds d'investissement, BlackRock, Schroeder, développent des nouvelles implantations, ont acheté de nouveaux immeubles pour développer leurs équipes. Donc ce mouvement est là. Naturellement, il est ralenti aujourd'hui par la crise. Et notre priorité, c'est de gérer cette crise, mais évidemment, dès que nous sortirons de cette crise et avec le Brexit qui va se mettre en place, la place de Paris a des atouts importants. Cela dit, il faut poursuivre l'action en matière d'attractivité. Des réformes très importantes ont été faites et positives, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut poursuivre, tenir les réformes qui ont été faites jusqu'à présent et ne pas revenir en arrière, notamment sur les réformes fiscales qui ont été faites.
Oui.
Poursuivre l'engagement sur la baisse de l'impôt sur les sociétés dont le Premier ministre a rappelé qu'il serait tenu à 25% dans les années qui vont venir et évidemment poursuivre les réformes en matière de simplification réglementaire, d'allègement des réglementations qui sont lourdes en France pour consolider cette position d'attractivité. Également dans le domaine fiscal, naturellement, comme cela est en cours avec les pouvoirs publics actuels.
Merci.
Voilà, donc cette politique d'attractivité continue évidemment à être une priorité importante pour la place de Paris dans les années à venir.
Merci Arnaud de Bresson d'avoir été avec nous en direct dans l'Heure H. Je rappelle que vous êtes directeur général de Paris Europlace. On se retrouve dans un instant, on fera le point évidemment sur ces publications avec entre autres les banques hein, bien sûr et les crédits agricoles ce matin. On se retrouve tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité, Audrey Maubert.
Avec nous dans l'heure H dès à présent, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Les banques françaises, hein, on a eu, ça y est, on a le panel des publications. Hein, elles ont massivement provisionné pour faire face aux faillites et impayés. C'est le poids du coût du risque hein, qu'on a bien évidemment vu dans leurs résultats, avec des niveaux d'exposition divers selon les banques. C'est ce qui a fait peut-être eh bien, ces différences d'arbitrage.
Et c'est exactement cela, c'est-à-dire qu'on peut analyser ces résultats de banque de trois manières. La première, c'est qu'effectivement il y a un provisionnement pour compenser des pertes futures. Ces pertes futures, c'est la hausse du chômage qui va générer des problématiques de revenus chez les particuliers et donc des incapacités à rembourser les crédits. C'est également des faillites d'entreprises qui vont faire en sorte que malheureusement des crédits d'entreprise ne puissent plus être remboursés. Et donc les banques sont en train d'anticiper pour la banque de détail ce phénomène malheureusement de crise économique qui est en train de s'installer. Et pour la banque de marché, je pense que la deuxième analyse, c'est bien celle-là, c'est des résultats très contrastés sur la banque d'investissement et les banques de marché, selon l'exposition des différentes banques à ces marchés. Prenons un exemple très concret, BNP Paribas, qui est à peu près sur tous les marchés, mais qui n'a pas, contrairement à la Société Générale, fait de l'activité de dérivés actions son activité majeure, s'en sort beaucoup mieux que la Société Générale qui perd de l'argent sur ses activités de marché. Donc on voit bien qu'il y a un provisionnement pour les risques sur la banque de détail, une problématique de risque et d'atonie des marchés sur la banque d'investissement qui fait qu'on a des résultats contrastés entre les différentes banques. D'une manière générale, quand même, on peut s'apercevoir que les banques s'en sortent vraiment très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la valorisation boursière des banques sanctionne de manière totalement, on va dire, pas arbitraire, mais cette sanction des marchés que l'on constate, même s'il y a des petits rebonds en ce moment, ne reflète absolument pas la santé financière des banques aujourd'hui.
Et finalement, c'est ça. On a souvent accusé, on a mis en lumière la fragilité des banques françaises, surtout en comparaison peut-être avec les banques américaines. Elles sont quand même beaucoup moins fragiles qu'elles ne l'étaient à l'issue de la crise de 2008. Et donc, ces sanctions sont décorrélées de la réalité vis-à-vis des marchés.
Oui, alors déjà en 2008, moi j'avais fait une analyse un peu contraire. J'avais déjà dit à l'époque que les banques avaient été extrêmement résilientes. Hein, ce sont les premières à avoir remboursé les aides de l'État suite à la crise de 2008. La crise d'aujourd'hui, de la même manière, montre qu'elles sont extrêmement résilientes. De manière différente, certes, mais d'abord, premièrement, les banques françaises sont très très bien capitalisées et mieux capitalisées encore qu'elles ne l'étaient en 2008. On est très au-delà des nécessités réglementaires sur les ratios de fonds propres qui sont nécessaires. La deuxième chose, c'est que on a quand même des activités de banque de détail qui se portent bien en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a une concurrence accrue des ce qu'on appelle les néobanques, les banques directes qui offrent des expériences clients un peu particulières, ça reste finalement un marché relativement marginal au regard du service de banque de détail que peuvent offrir les banques. Ça n'empêche que il reste des défis importants pour l'ensemble des banques européennes qui font que les investisseurs n'ont pas tellement confiance. Ces défis importants, c'est d'abord des réseaux bancaires qui sont pléthoriques et si on réduit les réseaux bancaires, on va vers un conflit social. Donc on fait en sorte de réduire, on va dire, assez faiblement ces réseaux, ce qui ne va pas vers la digitalisation des banques qui s'avère nécessaire néanmoins. L'autre enjeu majeur, c'est de réussir à fonctionner durablement avec des taux bas, qui fait qu'on a aujourd'hui des revenus qui sont en baisse sur toute la gestion de taux. Et ça, c'est un vrai sujet. Un exemple très concret, si vous avez des taux bas, les crédits liés aux particuliers que vous faites aux entreprises sont des crédits dans lesquels les marges sont extrêmement faibles, et donc vous ne pouvez pas gagner d'argent sur ce qu'on appelle la marge de crédit. Donc ces aspects structurels perdurent, les exigences réglementaires perdurent, la concurrence perdure, donc on est sur une fin structurelle des rentes de situation des banques qui font que les investisseurs n'ont toujours pas confiance, même si l'inertie et la nécessité des banques pour l'économie, parce que les banques sont nécessaires pour le fonctionnement économique, font que mine de rien, elles restent avec des activités qui font qu'elles restent avec des santé insolentes. Enfin, quand je parle d'insolent, on est sur BNP Paribas, par exemple, qui dégage en un trimestre 2 milliards d'euros de bénéfices, ce qui est quand même extrêmement important. La très bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est qu'on a des banques qui sont aujourd'hui prêtes en fonds propres et en termes d'activité pour accompagner la reprise. Et ça, alors que les indices de l'INSEE montrent que peut-être que la crise ne sera pas aussi importante que prévu, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie, c'est qu'il y a des banques françaises qui sont prêtes pour soutenir le redémarrage de l'activité.
Surtout que la BCE notamment appelle à être prudente en qualifiant la reprise. Et je voudrais qu'on revienne justement sur la question de la BCE, outre le contexte qui était déjà engagé, les taux bas, etc. Il y a cette question aussi, est-ce que ça n'a pas plombé aussi les valeurs bancaires sur les marchés? La BCE a demandé fin juillet aux banques de ne pas verser de dividendes jusqu'en janvier 2021 ni de racheter d'actions propres. Une consigne qui a été réitérée donc, qui sera réévaluée pour le quatrième trimestre. Est-ce que là aussi, ça n'a pas contribué à ces valeurs bancaires un peu plombées?
Oui, alors effectivement, le fait que les banques décident de limiter les dividendes, en tout cas sous l'injonction de la BCE, fait que les investisseurs probablement se détournent. Vous savez, si vous devez investir et que vous avez en face de vous une activité dont, je viens de l'évoquer, il y a des défis structurels très importants et que par ailleurs, il n'y a pas une rémunération du capital qui est très forte puisqu'on empêche de verser des dividendes, pourquoi j'irais investir dans la banque? Donc l'accès au capital pour les banques, effectivement, est de plus en plus difficile et du coup, les valeurs bancaires dévissent. Néanmoins, moi je suis un peu sceptique sur ce pompier pyromane qu'on évoque par rapport à la BCE. Il faut quand même bien voir que la BCE vient d'apporter un soutien massif aux banques. Quand la BCE décide de faire une opération de refinancement à moins 1% en déversant 1300 milliards d'euros...
On arrose les liquidités.
Eh oui, on arrose les liquidités, c'est même plus que ça. Non seulement on arrose les liquidités, ce qui a déjà été fait par trois fois par le passé, mais en plus on rémunère les banques par rapport à ces liquidités. D'habitude, quand une banque va prendre de la liquidité, ça lui coûte de l'argent. Et elle rémunère celui qui lui prête la liquidité. Là, pour la deuxième fois de l'histoire, quand la BCE prête de la liquidité, elle dit aux banques, non seulement je vous prête des liquidités à profusion, mais en plus je vous rémunère à un taux qui est énorme, puisqu'on atteint 1%. En fonction de l'utilisation que vous en ferez, certes, mais je vous rémunère pour faire en sorte d'utiliser correctement ces liquidités vers l'économie réelle. Ça veut dire que la BCE, quand même, soutient l'activité bancaire. On voit bien, sur 1300 milliards d'euros, je vais donner 1% de rémunération aux banques, ce qui est considérable. Ce qui va faire des revenus supplémentaires pour les banques et va leur permettre, en fait, de pouvoir non seulement abreuver l'économie de crédit, mais se rémunérer par la BCE et se rémunérer par les clients. Et c'est un double jackpot. Je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, les banques vont utiliser cet argent pour lesquels elles sont rémunérées par la BCE pour acheter des obligations d'État et donc aider les États à s'endetter, pour lesquels elles sont également rémunérées. Donc elles font un double jackpot sur les marchés en achetant des obligations pour lesquelles elles sont rémunérées par les États et en étant rémunérées par la BCE. Donc on voit bien quand même que à ce titre-là, la BCE leur permet d'avoir des instruments qui vont les permettre d'accompagner la reprise de l'activité économique et leur permettre d'avoir des sources de revenus complémentaires quand la hiérarchie des taux, ce qu'on appelait la hiérarchie des taux, ne joue plus aujourd'hui et ne permet plus d'avoir une activité de gestion d'actifs qui soit extrêmement rémunératrice.
Les banques françaises, donc, potentiel outil, bien évidemment, de la reprise. Merci Éric Delannoy, président fondateur de Tenzin Conseil. Merci d'avoir été avec nous en direct dans le RH. La suite de l'orage, c'est tout de suite.